Jacques Amblard, on se rencontre autour de votre roman Noé, vie explosée aux éditions MF. Comment vous est venu ce roman?
Oui, ça a été écrit en 2003 et depuis j'ai un petit peu corrigé et actualisé certaines précisions par rapport au monde un peu ésotérique dont il est question. Ça m'est venu parce que, je pensais, en fait, bon, outre qu'il y a un aspect un peu personnel qui a été, qui s'est transformé en intrigue, je pensais qu'il y avait un aspect amusant à parler de vie antérieure dans un roman, parce que tout ce qui est du domaine de l'ésotérisme, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ésotérisme, c'est-à-dire pas au sens ancien de savoir crypté, mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'ésotérisme, c'est-à-dire tout ce qui a rapport au New Age, aux extraterrestres, à la magie, à Jésus-Christ, superstar de tous les bodhisattvas, c'est-à-dire une sorte de spiritualité liée à la mondialisation, eh bien, à mon sens, n'a pas fait beaucoup l'objet de développement romanesque. C'est-à-dire qu'il y a toute une littérature New Age qui n'est pas justement une littérature de fiction, mais qui parle un peu d'expériences censées avoir été vécues, de gens qui ont été enlevés par des extraterrestres, de gens qui racontent leur voyage astro, comme on dit, les sorties du corps. En fait, j'ai voulu un peu articuler toutes ces thématiques qui, d'après moi, sont très populaires aujourd'hui, très diffusées, mais dans des réseaux que la littérature ne connaît pas ou peu. Alors, ça s'est un petit peu fait certainement. Bien sûr, la pensée magique intéresse la littérature de très grande envergure, enfin, ou du moins de très grande diffusion, comme par exemple Harry Potter qui s'est vendu à 250 millions d'exemplaires. Il est évidemment question de magie, mais la pensée magique, vous savez, au sens de toute cette fantasmagorie contemporaine liée aux des thématiques articulées aujourd'hui alors qu'elles ne l'étaient pas autrefois, c'est-à-dire les extraterrestres, le Christ, les vies antérieures, donc finalement la réincarnation, tout ça sont des choses qui s'articulent de façon bien connue dans ce qu'on appelle l'ésotérisme actuellement et que j'ai voulu traiter de façon romanesque, c'est-à-dire en faisant comme si c'était une réalité et donc en y greffant une intrigue, etc. Donc ça s'appelle Noé, donc il est question en fait d'un personnage jeune, 17 ans par là, ça se passe dans le futur proche, donc vers 2022, bon, pour histoire de faire une sorte de s'interroger sur la... C'est pas de la science-fiction, c'est même pas vraiment de l'anticipation, c'est juste pour s'amuser à voir ce qui pourrait se passer déjà en 2022. D'autres l'ont fait, vous me direz ça récemment. Ne serait-ce que Houellebecq dans son roman Soumission, où il est question d'une islamisation officielle de la France. Donc là aussi, c'était une anticipation, disons, immédiate. Bon, là aussi, 2022, c'est le présent dans le roman. Le personnage est amnésique et... En fait, il va s'apercevoir de ce qui lui est arrivé dans cette existence, mais aussi dans ses vies antérieures, puisqu'il a des flashs, si vous voulez, au sein de sa nuit intérieure, de son amnésie. Il a des flashs où il se voit comme animal dans des vies antérieures. Il a été thon, il a été ours, il a été chimpanzé. Alors c'est pour rire, évidemment, de la métempsychose. On n'est pas obligé de croire, quand on croit aux vies antérieures, au fait qu'on a été cafard ou termite. Bon, c'est pour rire un peu avec tout ça, parce que les animaux, ça nous fait toujours assez rire, au moins en Occident, et à mon avis un peu partout. Et finalement, cette amnésie va se résoudre, c'est l'intrigue, en fait, tout simplement de ce livre. Qu'est-ce qu'il a été dans cette existence? Pourquoi est-ce qu'il a perdu la mémoire? On s'aperçoit qu'il a eu un père épouvantable, qu'il a mêlé à ses jeux sexuels avec sa mère, donc il a vécu un double inceste. Bon, tout ça aussi, c'est un peu pour rire, si vous voulez, de la montée en sexualité de la littérature. On va vers le pire, mais encore une fois, pour s'amuser tout cela. Et on y s'aperçoit aussi de ce qu'il a été, alors, dans ses vies antérieures comme animal, et avant, dans sa vie un peu racine, dans sa vie souche, si vous voulez, dans sa première vie importante, où il était tout simplement Noé, le personnage de la Bible, antédiluvien et même diluvien dans son cas. Et pour rire aussi de la Bible au sens où, bon, on découvre dans des romans très populaires comme Da Vinci Code que la Bible a peut-être été trafiquée. Alors pourquoi ne pas imaginer un Noé qui dans mon roman est un Noé épouvantable, un patriarche lubrique qui a vécu 900 ans et 900 ans de viol et d'abus sur toute sa descendance. Et en gros, ce que s'amuse à dire ce livre, c'est que tous les avatars de mon personnage, c'est qu'il est obligé d'avoir pendant plusieurs milliers d'années des retours de karma de son épouvantable existence de Noé initial. En même temps, bon, Noé donc construit son arche, c'est un roman qui parle d'animaux. D'ailleurs, il y a une iconographie particulière dans le livre où il y a des petits animaux un peu comme des figurines qui interviennent dans chaque chapitre pour montrer de quel animal il est question dans chaque chapitre. Donc les animaux cette fois-ci sont importants, mais là c'est moins pour rire, il y a un vrai discours, disons, pro-animalier dans ce roman, c'est-à-dire qu'il y a un vrai manifeste pour les animaux, il y a une vraie comparaison entre Auschwitz et les abattoirs dans certains passages. Il est vraiment question de montrer à quel point les animaux qu'on nous aimons tant sont en même temps des Christs finalement modernes, c'est-à-dire qu'ils vivent des holocaustes aussi affreux que discrets, et qui sont d'une certaine manière, peut-être, à mon sens, évidemment ça se fait depuis peut-être longtemps, mais à mon sens la prochaine grande prise de conscience de l'humanité, c'est le hiatus qui existe entre l'amour qu'elle porte aux animaux, au moins domestiques, et le traitement qu'elle réserve aux animaux en général, avec une sorte de « ah oui, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien ». Encore que ça change un peu, par exemple, bon, enfin, je vais pas parler politique à ce sujet maintenant, mais il y a une sous-problématique à propos des animaux dans ce livre qui est très claire. Et donc, ésotérisme de façon, comment dirais-je, sensiblement amené par l'intrigue romanesque, une question aussi de faire un manifeste pour les animaux. D'ailleurs, et Brigitte Bardot intervient comme personnage. Alors là, j'imagine, donc, puisqu'on est en 2022, qu'elle meurt dans son yacht, enfin bon, avec le héros, parce qu'il tombe dans une intempérie, parce qu'il y a les intempéries actuelles qui sont expliquées dans ce roman sous forme un peu apocalyptique et sensationnelle. Et donc Brigitte Bardot, évidemment, tendrement, de ce point de vue-là, enfin, intervient en tant que grande, eh bien, celle qui a pris cause pour les animaux avant pas mal de monde. Et je la fais mourir, non pas par cruauté, mais pour rire, là encore. Bon, évidemment, on rit de pas mal de choses. Quand on rit d'une thématique, c'est qu'elle existe vraiment. À mon sens, un thème existe dans une actualité sociétale, de façon sensible au début avec des pamphlets, avec des essais sérieux, puis au bout de 20 ans, on peut enfin en rire, faire des films ou des livres, ou des fictions comiques dessus, ça veut dire qu'elle existe vraiment. Donc je veux le faire exister, cet ésotérisme et cette cause pour les animaux, par notamment l'aspect un peu comique. Et puis il y a d'autres sous-thématiques dans ce bouquin, mon héros est complètement inculte, complètement idiot, même il est, mais sympathiquement idiot, mais parce qu'on le comprend grâce... Au moins, c'est expliqué par son amnésie. Et donc, il représente un peu l'amnésie de notre génération post-culturelle, comme dit Finkielkraut, justement. C'est-à-dire l'amnésie du 21e siècle qui est passée à Google plutôt qu'à la bibliothèque. Moi, je suis universitaire, donc je vois que mes étudiants sont de plus en plus sympathiques et en même temps de plus en plus néophytes par rapport à l'objet livre, qui devient une sorte d'objet muséal, ou d'objet archéologique, ou d'objet exceptionnel dans la vie des jeunes gens, éventuellement, puisque l'écrit est d'abord électronique, et puis Google remplace la culture, mais une culture accessible, et censée représenter tout le sort de dieu électronique qui sait tout. Il sait en fait pas du tout tout, mais... Donc, le Google est une alternative à toute volonté d'érudition, et donc mon personnage principal est un peu idiot, en tout cas complètement inculte, et on rit de ça aussi, et les jeunes gens qu'ils fréquentent le sont aussi, et donc il y a encore une autre thématique à propos de la culture, ce que devient la culture, pourquoi la culture d'un certain point de vue a échoué, puisqu'elle n'a pas permis à notre société d'être plus heureuse, puisque toutes les sources philosophiques, sociologiques sont rarement à dire autre chose que « attention, on va dans le gouffre », comme disait Beckett, « cap au pire ». Est-ce qu'on connaît beaucoup de philosophes aujourd'hui optimistes? Je ne pense pas. La culture, d'un certain point de vue, a échoué à faire que le monde occidental soit heureux ou ne se détruise pas, au moins. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas donner tort à la culture de s'autodétruire si elle a échoué. On ne peut pas donner tort aux générations de rejeter la culture. Mais est-ce que c'est pour, à la place, qu'est-ce qu'il y a d'autre que cette culture? Alors, si c'est la violence, si c'est le terrorisme, évidemment, c'est pas une solution. Alors le livre s'amuse aussi à dire que la seule solution, eh bien, c'est une sorte d'apocalypse. Ça aussi, pour aller dans les thématiques contemporaines apocalyptiques, c'est aussi pour essayer de donner un côté un peu attrayant au livre, avec un côté un peu sensationnel. Si vous voulez, je vous lis la première de couverture, l'accroche. On a essayé de faire une accroche. Alors, sous le titre, ça commence par un passage de la Bible qui est sensationnel, de l'Ancien Testament, où les questions de Noé. « La fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. Fais-toi une arche en bois résineux, tu la feras en roseau et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux, sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. » Avec cette sorte d'objectivité désarmante qu'il y a parfois dans l'Ancien Testament, où on parle d'extermination du genre humain dans la bouche de l'Éternel, donc du Dieu de l'Ancien Testament, avec en toute sérénité. Donc ça, c'est Genèse 6, 13, 17. Et puis j'ajoute un autre texte qui lui clôt la Bible, au contraire, clôt le Nouveau Testament. « Heureux le lecteur et les auditeurs de ces prophéties, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. » Donc ça, c'est Apocalypse 1, 3. Donc c'est amusant, vous voyez, de faire une accroche, un peu comme dans un roman d'espionnage ou un roman policier, mais avec des textes qui font partie des fondements de notre culture judéo-chrétienne. Bon, c'était ça un peu l'amusant de cette affaire. Alors c'est un texte qui est difficile, au sens où il y a une sorte d'ambition littéraire dedans, au sens où j'essaie d'inventer une nouvelle façon de traduire l'oralité à l'écrit. Bon, après Céline, qui a essayé de faire une sorte d'écriture de l'oral vers 1936, par là. Alors, est-ce qu'on peut continuer ce qu'a fait Céline? Alors, ça n'a rien de célinien particulièrement. Mais voyez, par exemple, j'essaie de mettre un peu des intonations de la parole dans le texte. J'essaie d'accentuer certaines syllabes avec des italiques. J'essaie, par exemple, de traduire des intonations que moi j'ai identifiées issues des banlieues dans les années 80, et particulièrement des jeunes filles. Je ne sais pas pourquoi, c'est des intonations féminines qui faisaient « ouais, ah oui, ah ouais », des choses où on retombe vers le « e » ou le « a » ou le « an ». J'essaie de traduire ça de façon stylisée, explicite, pour refaire vivre l'écrit avec de la musique. Moi, je suis musicologue. Donc évidemment l'aspect musique, texte m'intéressait. J'ai aussi essayé de traduire le côté timbre d'une voix par des couleurs. Alors ce livre a coûté très cher, je m'en excuse une nouvelle fois auprès de mon éditeur, parce qu'il est en couleurs, il y a 4 couleurs différentes, et chacune des couleurs représente le timbre d'une voix. Donc à chaque fois qu'on retrouve une couleur, c'est dans des dialogues, pour bien repérer que c'est telle personne qui parle, parce qu'on reconnaît le timbre de sa voix qui est toujours de la même couleur. Alors moi, même si c'est difficile de saisir le héros, qui est toujours le même narrateur, qui est toujours le même jeu, mais qui se situe dans différentes époques, au moins on le retrouve toujours, parce qu'il est toujours rose quand il parle. Ça aussi, c'est de l'humour. L'homme, qui est mon héros, mon jeune homme, là, de 17 ans, a une voix rose, parce qu'il a une petite voix perchée. C'est pour réfléchir, là aussi, sur... pas forcément sur cette thématique à la mode qu'on appelle le genre, mais c'est pour rire d'un homme qui a une petite voix de petite fille, parce que, au fond, la poésie, selon moi du moins, se désintéresse des sexes féminins, masculins, se désintéresse des âges, et est toujours dans une sorte d'impression d'androgynat atemporel et asexué d'un certain point de vue, même s'il y a une sexualité dans la poésie. Moins polarisé peut-être, ou du moins dans certains cas. Bon. Et donc, l'aspect musical lié donc aux couleurs, le héros est rose, et il y a une histoire d'amour trans-existentielle, justement. On retrouve le héros et son aimé, eux, dans différentes existences, et elle a toujours une voix verte. Non pas qu'elle soit particulièrement verte dans ses propos, mais pour traduire cette fois-ci ses yeux verts, tout simplement, bon, de façon visuelle. Et il y a un personnage qui est un peu une sorte d'ange, si vous voulez, qui est bleu, lui, un peu comme une couleur un peu plus céleste, qu'on appelle donc dans le monde New Age, ce personnage un bodhisattva, c'est-à-dire un personnage qui est sorti du cycle des incarnations. Alors là, c'est le bouddhisme qui nous dit que quand vous êtes bon, eh bien, à la fin, vous n'avez plus besoin de vous réincarner, vous êtes absous de toute réincarnation. Alors lui, il est dans cet état-là, il est là pour aider les autres, il vient exprès pour ça. Et à la fin du livre, dans la dernière, il y a une petite... le livre parle de l'existence du héros dont je parlais. À la fin, il meurt dans des conditions épouvantables, c'est aussi pour rire de la mort. C'est ça qui est bien réussi, si je puis me permettre, dans ce livre, c'est qu'il y a un épilogue qui s'appelle « Vie postérieure », où il y a une dernière existence, mais après l'existence principale qui occupe l'intrigue, qui occupe une trentaine de pages, où il y a une petite existence de plus dans le futur, qui est la dernière existence du héros. Il se réincarne en petite fille, là, c'est aussi pour rigoler, si vous voulez, là où sa voix rose se justifie. Et cette fois-ci, le bodhisattva à la voix bleue, lui, se réincarne en loup. Et donc, il y a quelque chose, vous voyez, alors, parce que la métempsychose, bon, on n'est pas forcé d'y croire, même dans l'ésotérisme et même dans le New Age actuel, mais ça aussi, c'est pour rire, hein, qu'on se transforme en animal. Et donc, le loup, à la fin, aide, une fois de plus, le héros à rencontrer son aimé, une dernière fois, et cette fois-ci, ça se termine en apothéose amoureuse. Et c'est là où la personne qui a mis en page le livre, Johan Farge, a fait un énorme travail magnifique, c'est qu'on a travaillé ensemble pour qu'à la fin, les couleurs, si vous voulez, prennent le dessus sur le sens, prennent le dessus sur le mot, sur le texte. Et finalement, le héros rose, dans sa dernière mort, en tant que petite fille, eh bien, la couleur rose envahit la page progressivement, les pages rosissent, comme si, si vous voulez, le verbe, finalement, retournait à une sorte d'immatérialité et envahissait tout. Et le personnage de l'aimé, qui, elle, parle en vers, eh bien, sur les hampes de ces lettres type T, L, qui sont des lettres un peu comme des en longueur, en hauteur, poussent des fleurs roses. Vous voyez, il y a toute une sorte de travail, non pas d'illustration, puisque de la lettre même, même à l'intérieur du mot, naît, fleurit la couleur et envahit complètement tout le livre. Et à la fin, le sens disparaît et la couleur envahit le livre. Donc finalement, c'est un roman qui a une ambition joyeusement pluridisciplinaire. Alors vous me direz, c'est dans l'air du temps. Hein, les arts qui se mélangent, etc. La littérature, j'ai pas vu personnellement qu'on faisait beaucoup ça, l'aspect, disons, livre, qui puisse faire de la musique. Alors bon, là j'ai essayé de le faire, comme je vous le disais, d'une certaine façon, et qui puisse faire aussi de la couleur, puisqu'à la fin, il y a cette apothéose, finalement, baudelairienne, synesthète, les correspondances, essaie d'être trouvée, mais vraiment, si vous voulez, dans les faits, dans la technique, de la quadrichromie, ça a coûté cher, et je peux vous dire que c'est réussi, je suis fier du résultat, et je puis d'autant plus le dire que ça ne m'engage pas que moi, mais Johan Farge, on a réussi une belle apothéose colorée à la fin.